Même si notre attention est captée par la guerre en Ukraine, il ne faudrait pas laisser au second plan l'élection présidentielle dont le premier tour est dans 20 jours. La Conférence des évêques de France a publié « L'espérance ne déçoit pas », un petit ouvrage proposant différents thèmes de réflexion. Le premier d'entre eux traite de la recherche de la paix. Pour nous éclairer sur ce sujet, l'évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix est membre du conseil permanent de la Conférence des évêques de France et notre invité. Bonjour Monseigneur Jean-Marc Echen.
Bonjour à vous.
Choisir de vivre ensemble en paix est la première invitation des évêques de France. Cet appel à vivre cette période d'élection de manière apaisée n'est pas évident. On le voit bien, hein, les débats ressemblent souvent à des joutes verbales plus ou moins violentes. Comment trouver la paix dans les débats démocratiques et la vie politique, Monseigneur ?
Bien, nous pourrions dire de mille manières, mais sans doute qu'il nous faut trouver une sorte d'éthique du dialogue, c'est-à-dire une capacité à écouter vraiment l'autre plutôt qu'à nous situer immédiatement dans des postures d'opposition ou de négation de tout ce qui sera affirmé. Et cela nous est difficile, mais en même temps, nous pouvons trouver des ressources pour nous qui sommes des chrétiens, des ressources intérieures en ces temps de conversion à la fois individuelle et collective du carême. Le Seigneur nous dit, si tu veux construire la paix, pour le dire en résumé, il faut commencer par la construire en toi-même. Et c'est ce que disait Christiane Singer aussi, commentant Eti les Sum. Elle disait, il n'y a pas d'autre possibilité si nous voulons la paix sur cette terre, il nous faut l'être. Alors est-ce que je suis en paix avec moi-même? Déjà, ce n'est pas forcément le plus simple.
Oui, avec Dieu. C'est un premier chemin à faire, oui.
Qui est évidemment pour nous chrétiens, pas pour tous les hommes, mais pour nous chrétiens la source de la paix. Et est-ce que je suis dans une relation apaisée avec les autres qui me permet, plutôt que d'être dans des oppositions frontales et interpersonnelles, dans un débat d'idées? Nous avons des difficultés aujourd'hui avec le débat d'idées. Et puis peut-être, je retrouve des passages d'Eti les Sum, vous savez, cette jeune juive de 30 ans qui est décédée à Auschwitz, qui était des Pays-Bas, qui a écrit cette autobiographie magnifique, Une vie bouleversée. Elle disait, j'essaie toujours de retrouver la trace de l'homme dans sa nudité, sa fragilité, de cet homme bien souvent introuvable, enseveli parmi les ruines monstrueuses de ses actes absurdes. Quand bien même j'aurais en face de moi le pire des personnages à vue humaine, eh bien, avoir suffisamment recherché en lui cette trace d'humanité, de fragilité, pour garder quand même un espace de dialogue, mais quel défi! Et en même temps, face à ces débats politiques que nous engageons, c'est toujours cela, essayer de trouver un réservoir en nous encore intact de bienveillance vis-à-vis de l'autre qu'on aborde souvent comme un ennemi.
Oui, c'est une façon de voir en fait les candidats pour ce qu'ils sont réellement et pas comme on voudrait qu'ils soient. Et puis de laisser de côté aussi l'émotion, préférer la raison.
Oui, c'est cela. Et puis comme souvent, on voudrait que l'autre soit nous. Et par définition, l'autre n'est pas nous, c'est un autre. Donc essayer de comprendre quels sont les ressorts intimes de sa pensée, de ses convictions, si toutefois il est dans la vérité. Vous savez, on est très marqué dans cette période de réflexion sur la politique par le témoignage qu'avait donné Vaclav Havel, ce président philosophe, vivre dans la vérité. C'est vrai que quand on a en face de soi des hommes ou des femmes qui ne sont pas dans la vérité, c'est parfois difficile d'entamer un débat, mais il y a quand même une parcelle d'humanité qu'on peut toujours déceler. Et c'est là-dessus qu'il faut nous appuyer pour essayer d'aller de l'avant. Et de même pour l'autre vis-à-vis de nous. Parfois, il arrive que parce que nous sommes enfermés dans notre idéologie, il arrive que nous puissions nier le réel, la réalité, donc de ne plus être dans la vérité, bien que l'autre nous fasse le cadeau de nous accueillir avec ce qu'il reste de vérité en nous. Quel défi là aussi.
Oui, quel défi. La Conférence des évêques de France appelle à un travail d'introspection pour se demander si, je la cite, les modifications apportées à nos institutions ces dernières décennies ont vraiment favorisé une amélioration de leur fonctionnement et une participation plus effective des citoyens à la vie politique. Comment peut-on faire ce travail d'analyse ?
Bien, c'est tout l'objet de nos échanges, de nos débats. C'est vrai que quand on se penche sur les questions politiques, on ne se penche pas uniquement sur des questions de conversion personnelle, bien sûr, ou même de style de vie communautaire à l'intérieur, chacun et chacune de nos communautés, mais on réfléchit sur l'organisation globale de la société, sur sa structuration et sur ce qui, dans cette organisation, pourrait favoriser ou pas justement des logiques de paix, de décentrement de soi-même pour être attentif au bien commun. C'est ce que la doctrine sociale de l'Église, qui commence à être ancienne, parce que les premiers textes se penchant sur la politique ou la dimension sociale, insufflée par le souffle de l'Évangile, remonte à 1891 avec Léon XIII et Rerum Novarum. L'enseignement social de l'Église parlait de structure de péché. Il y a des formes d'organisation qui suscitent de la défiance plutôt que de la confiance. De même qu'il peut y avoir des structures de sainteté, c'est-à-dire qu'il y a des aménagements de la vie ensemble qui peuvent générer ou engendrer des comportements vertueux. Alors c'est sur ces questions-là, alors quand on parle de forme d'organisation, ce qui structure la société, c'est le contexte législatif.
Oui.
Donc est-ce que nos lois favorisent une certaine manière d'accepter l'autre et de vivre en paix avec lui, ou est-ce que parfois elles nous mettent dans des confrontations? Donc c'est un discernement vraiment difficile à opérer, mais souvent à plusieurs on est plus intelligent, et donc il nous faut nous mettre autour d'une table et nous dire qu'est-ce qui pourrait favoriser. Je prends un simple exemple parce que sinon on est
Oui.
dans des choses abstraites. À un certain moment, il y a des gens qui se retrouvent en grande difficulté sociale, pour toutes sortes de raisons, à cause des accidents de la vie, des ruptures de couple, de la maladie, du handicap, bon, à cause du fait qu'ils viennent d'un pays en guerre et qu'ils sont obligés de migrer. Alors, pour aider ces personnes-là, est-ce qu'il faut développer une aide aux plus proches, c'est-à-dire dans les communes, dans les quartiers, dans les centres sociaux, ou est-ce qu'il faut que tout cela soit centralisé et régi par, à la manière française, vous savez, nous sommes très jacobins, régi à distance, sans analyse précise et sans contact direct avec les personnes. Alors, des choses tendent à montrer que peut-être il faut se rapprocher, pour rapprocher
Des
les structures
personnes.
d'aide sociale des personnes elles-mêmes, même s'il y a le risque dans ces cas-là, et c'est peut-être pour cela que parfois on avait un peu centralisé, bien peut-être de clientélisme ou de
De
corruption
favoritisme.
et de favoritisme, en disant ben voilà, j'accorde des aides sociales à ces personnes parce qu'en retour je vais attendre quelque chose d'elles. Donc voyez, ce sont ces débats-là. Est-ce que l'aide sociale doit être proche ou lointaine? Et si elle est proche, quelles sont les garanties qu'on se donne pour qu'il n'y ait pas d'abus? Donc la question de la sécurité, c'est la même chose. Est-ce que les éléments de sécurité, la police, c'est une police municipale? Est-ce qu'elle est armée? Est-ce qu'elle n'est pas? Vous voyez, ce sont des choses très concrètes en réalité quand il s'agit de se mettre autour d'une table et d'envisager ce qui peut favoriser dans notre mode d'organisation la paix, le service du bien commun ou au contraire ce qui peut l'entraver.
Vous évoquez justement, Monseigneur Jean-Marc Eschène, le bien commun, hein, cette recherche qui est pour l'Église un des aspects majeurs de l'engagement en politique. Qu'est-ce qui, à votre avis, empêche souvent que ce fameux bien commun ne soit pas le moteur des décisions politiques? Qu'est-ce qui bloque?
Bien, ce qui bloque, c'est peut-être une culture ambiante aussi. Il y a sans doute, c'est multifactoriel, comme on dit, il y a toute une série d'éléments, mais on est dans une culture qui, peut-être à juste titre, pendant un temps, a valorisé l'individu. Et donc, derrière, en valorisant l'individu, on valorise l'individualisme, c'est-à-dire que je risque d'être centré sur moi, attentif à mon intérêt, à mon bien personnel, au risque d'oublier l'intérêt collectif, mais on expérimente cela dans une famille aussi. À un certain moment, il y a mon désir, parfois ancré dans une pulsion assez forte qui est en moi. Et puis, je ne suis pas une île, je ne suis pas seul au monde, il y a d'autres personnes autour de moi, donc il faut que je compose avec eux. Et dans une société marquée par des logiques libérales de consommation, où on a pour une part à juste titre, cessait de mettre l'individu purement au service du collectif, on a peut-être survalorisé la place de l'individu et de ses désirs, et c'est difficile de trouver une logique du bien commun. Et en même temps, dans nos communes, dans nos villages, il y a des journées citoyennes où les gens se regroupent, on a vécu ça récemment là, au bord de l'Ariège, pour ramasser, parce qu'il y avait eu des inondations, tous les papiers gras ou les détritus qui étaient accumulés ici ou là. On voit qu'il y a quand même chez chaque personne, si on les mobilise, des ressources d'attention à autre chose que soi-même. Et c'est aussi le chemin de la spiritualité, c'est-à-dire se décentrer de soi pour se centrer sur Dieu qui lui-même nous recentre sur les autres, la sortie de l'individualisme.
Et le pape François indique dans son encyclique Laudato Si que peut-être une des raisons aussi, c'est que la politique est soumise à la technologie et aux finances. Et ça aussi, ça empêche cette recherche du bien commun, ça la décentre en fait de l'essentiel.
Oui, c'est cela. Le risque, c'est de faire de la politique au sens noble du terme une affaire effectivement de technicien et d'induire dans l'esprit des gens cette idée qu'on ne peut pas avoir de prise. Et si on ne peut pas avoir de prise, on finit par s'éloigner assez radicalement d'un engagement au service du collectif. On voit bien, le taux d'abstention est très fort. Le risque, c'est de se dire, mais tout cela, est-ce que ça sert à quelque chose, que je me mobilise dans le jeu démocratique, parce que si cela appartient à des techniciens ou à des financiers dont on a du mal à comprendre les logiques.
Oui, ça décourage.
Et la haute technicité, bon, on finit par abandonner, finalement, par s'occuper de ses propres affaires, au mieux de son environnement immédiat, de sa communauté, qu'elle soit communauté idéologique, religieuse ou même communauté municipale. Mais la politique, au sens le plus large du terme, le bien commun est très commun, au sens où c'est celui de la nation, même de la planète tout entière, pour protéger aussi notre terre-mère, comme dit le pape François, eh bien, on finit par s'en désengager.
Oui, c'est ça. Et pour revenir sur ce que vous évoquiez au début de notre entretien sur le dialogue, le pape François invitait à promouvoir une culture du dialogue. C'était quand il recevait le prix Charlemagne en mai 2016. À votre avis, de quel dialogue s'agit-il quand on est dans cette période électorale? En fait, qu'est-ce qu'il faut privilégier comme dialogue?
Bien, oui, c'est tout le débat. C'est-à-dire que, est-ce qu'on choisit de privilégier parce qu'on y a réfléchi avec d'autres, avec dans une réflexion de sagesse, des questions qui sont peut-être à aborder à moyen terme ou à long terme, si je prends l'exemple de la préservation de notre environnement, donc de la planète, ou est-ce que dans le dialogue, je privilégie l'intérêt immédiat qui fait que voilà le prix de l'essence augmente considérablement et j'ai besoin de me déplacer malgré tout, et donc je vais être attentif aux propositions politiques qui vont me proposer d'améliorer immédiatement, aujourd'hui et maintenant, ce quotidien. Donc je crois qu'il ne faut pas faire abstraction de ce quotidien, qui est difficile pour bien des gens, mais il faut vraiment essayer de se projeter dans le dialogue, se dire qu'est-ce qu'on propose comme récit pour changer de monde, pour vivre une vraie conversion écologique, humaine, anthropologique, pour que finalement, non seulement on vive en paix sur cette planète, on vive dans une planète qui soit protégée, mais qu'aussi il y ait peut-être plus d'égalité entre les plus riches et les plus pauvres, moins de clivage et de distance. Et cela, c'est un dialogue qui va chercher des ressources profondes et qui se situe moins dans l'immédiateté de savoir qu'est-ce qui va me rester là à la fin du mois compte tenu de l'évolution des prix sur mon compte en banque. C'est important, surtout si je dois faire vivre ma famille et faire face à des réalités essentielles. Mais en même temps, c'est pas le tout. Il faut mener les choses ensemble, une vision globale, lointaine, un nouveau grand récit, parce qu'on voit bien que les grands récits qui nous ont été proposés arrivent finalement dans des voies sans issue ou manifestent leur échec. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme nouveau grand récit pour vivre ensemble ?
Voilà,
je
ce
parle
sera
pas là du
votre
récit
conclusion.
Évangélique, même si je pourrais en parler.
Oui.
Mais...
Ce sera malheureusement votre conclusion, Monseigneur Jean-Marc Echelle. Merci de nous avoir éclairé sur l'exigence de vivre ensemble en paix avec tous.